RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardy. Je vous rappelle la première affiche, résultat de la première affiche de la 34e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé 3-2 face à Bordeaux. On a parlé de l'OL qui est donc 3e au classement, qui a 3 points de retard sur le LOSC, qui a 6 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. On va accueillir Guillaume qui est supporter des Girondins. Et alors Guillaume, bah, il doit être un peu inquiet parce que ça fait une victoire sur les 10 derniers matchs pour Bordeaux. Bonsoir Guillaume.
Salut les gars, ça va?
Alors est-ce que t'es inquiet Guillaume ou pas plus que ça finalement?
Bah, pas plus que ça, parce que cette saison, c'est très bien de toute façon qu'on fera rien de plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a été capable de faire des gros matchs seulement contre les gros, hormis ce soir où on n'accroche pas de résultats, mais sinon ça ressemble à notre saison, c'est-à-dire très inconstante.
Ludo, vas-y. Voilà.
Je me sens passionné, les gars, ça fait plaisir.
Mais non.
On sent que l'arrivée de Paulo Sousa l'a relancé un peu certains joueurs. On voit son impact notamment au niveau du management. Relancer un garçon comme Nicolas Depréville, c'est quand même pas anodin.
12 millions.
Pablo qui prend toute son ampleur au milieu de la défense à droite. Le jeune Koundé, même s'il fait une connerie ce soir, c'est une belle valeur soit marchande, soit pour construire l'avenir du club. Au milieu, ça va, Otavio, Basic, bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, c'est là surtout qu'il faudra se renforcer. Et puis, j'ai trouvé une belle complicité devant entre Briand et Depréville. Camano me fatigue, mais il me fatigue depuis un bon moment, par son manque d'altruisme, tout le temps dos au but, il se cherche à se retourner, alors qu'il y a c'est la base du football quand t'es dos au jeu. Dans quelle division tu penses qu'en étant dos au jeu, tu vas te retourner, dans la surface de réparation, ça n'existe pas ça. Voilà, ça fait un moment qu'il a la tête dans le panier et voilà.
Ouais, depuis son départ à Vorta à Monaco. Hein.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas dans l'esprit.
Et... après, ce qui est quand même, moi je trouve notre, comment, j'ai oublié le prénom de
Guillaume.
Moi, je trouve que tu devrais quand même être enthousiaste parce que mine de rien, depuis que Paulo Sousa est arrivé, tu vois des choses dans le contenu qui sont hyper intéressantes pour construire pour l'année prochaine. Il y a une ébauche déjà d'identité de jeu. Quand tu vois Bordeaux,
enthousiaste, ils sont 14e de Ligue 1, ils ont 38 points.
C'est pas ça.
Est-ce que je peux terminer?
Non. Alors, je vais vous le présenter d'une autre manière.
Sur la structure du jeu à 5
Moi, je vous pose une question. Ouais. Maintenant, depuis que Paulo Sousa est arrivé, je vous demande comment joue Bordeaux. Vous êtes capable de répondre. Il y a déjà une
Il a déjà donné
de la personnalité à son équipe.
Et puis, il faut attendre qu'il construise son équipe.
Avec beaucoup de jeux sur les côtés, une équipe qui va très vite sur les côtés.
Il a un milieu qui sait s'adapter en fonction. Il l'a fait, après avoir pris le bouillon pendant une demi-heure. Il a fait revenir un peu Camano pour que Basic aille chercher un petit peu plus haut Ndombele. Voilà, il a su se réadapter.
Ça fait combien de temps qu'il est arrivé, Paulo Sousa?
Je sais pas, Nico, il l'a tous les jours au téléphone, demande lui.
Non, pas tous les jours.
Guillaume, c'est son combienième de match à Paulo Sousa? Guillaume, c'est son combienième de match à Paulo Sousa?
Moi, je dirais, ça doit être son sixième ou septième.
En 6-7 matchs, avoir réussi à imprimer déjà une personnalité à son équipe, moi, je trouve qu'il faut s'enthousiasmer. Il y a pas beaucoup d'entraîneurs qui arrivent à faire ça. Et j'ai hâte de voir ce que Bordeaux va faire l'année prochaine avec le mercato qui s'annonce quand même un minimum ambitieux.
Alors sachez que lui, enfin, alors parce qu'on l'avait rencontré également sur RMC Sport, il nous avait confié une interview. C'est son sixième match, hein. Une victoire, deux nuls, trois défaites. C'est vrai qu'il y a
pas.
Voilà, il y a le contenu. Mais lui, il a lui-même dit, hein, il est arrivé en cours de saison. Ouais. Là, jusqu'à la fin de la saison, bah, il est en mode repérage.
Il fait l'audit.
Qui on va garder, voilà, qui on va,
jouer pas jeunes, garder. Là, je tente deux trois changements. Voilà. Je fais jouer un jeune par-ci.
Où est-ce qu'on a besoin de recruter? Voilà.
Quel genre de profil? Comme ça, dans tes trois points, l'audit bordelais, c'était parfait.
Clairement, t'es latéraux. Et puis ton milieu de terrain.
Alors, tout le milieu, mais tout le milieu. Hein.
Ouais, tout le milieu. Et puis, enfin, franchement, Sabali, Pungé, c'est pas non plus, c'est pas top. Il y a moyen d'améliorer ça. Surtout dans un système dans lequel ils jouent en ce moment, tes latéraux ont une place prépondérante.
Attends.
Ils ont Madja qui vient de marquer. Les gars,
Sabali, je pense que c'est quand même un joueur qui est intéressant par rapport à la philosophie que Paulo Sousa veut mettre en place. Après, il est pas aidé parce qu'il joue derrière Camano.
Il a été intéressant. Il ne l'est plus depuis un moment.
Camano l'aide.
Je sais pas si Camano l'aide pas, mais tu dois pas être dépendant des autres pour montrer, montrer tes qualités.
Quand tu joues latéral dans ce système-là, t'as besoin que ton joueur devant toi,
bien coordonné. Oui, mais il a été mis en valeur sur la qualité de ses centres, sur la qualité de son volume de jeu. Depuis 6 mois, pareil, il y a eu un transfert à avorter,
sais où. Comment tu veux qu'il centre? L'autre, il lui ouvre jamais l'espace dans son dos. C'est compliqué. Toi, qui jouais souvent sur un côté, tu sais que c'est important d'être complice avec ton latéral.
Le peu de centre qu'il a, il doit faire beaucoup mieux.
Moi, j'y crois encore à Sabali. Je pense que c'est quand même, il a quand même un potentiel qui est intéressant. Et je l'aime bien dans ce système, un peu plus haut en tant que latéral. Après.
Nico Paolo Orsi, qui nous a fait suivre ce match, qui est notre correspondant à Bordeaux, vient de m'envoyer un petit message là pour expliquer alors le carton rouge, l'exclusion de Jovanovic. Allez. Alors Jovanovic a dit fuck off à 30 mètres de l'arbitre, rouge direct. Il s'est excusé, mais il a du mal à comprendre.
Non, même voilà. Sébastien aussi, il fait des siennes depuis quelques semaines. Là.
Fuck off, Non mais sérieusement, va pas jouer au vierge effarouché, ça va. Il a pas insulté sa mère.
En français, ça veut dire un phoque, tu vois, c'est un animal.
Non, mais ça veut dire putain.
Un phoque éteint, quoi.
Donc si putain, c'est comme putain, fait chier, tu vois. Il y a pas de traduction vraiment littérale, non, mais c'est rien. Non, mais franchement, s'il a vraiment expulsé pour ça, Monsieur Bastien est vraiment très susceptible. Et non, mais c'est.
Après,
c'est
t'as abusé, pas insulté. T'es parti sur une Thierry Roland là, Monsieur Bastien.
Non, j'allais dire, Monsieur Bastien ne doit pas porter la culotte chez lui pour se venger sur le terrain. Mais bon, on n'ira pas jusque là. Non, mais c'est abus. Si vraiment il a expulsé pour ça, c'est très sévère.
Jérôme Théo me dit, ouais, il a pas été à 30 mètres de l'action non plus. C'est vrai. Il devrait être plus proche. C'est vrai, effectivement. Alors, tiens, il me renvoie un truc, joueur à ses coéquipiers et à l'arbitre. Il s'est excusé, voilà, auprès de l'arbitre et de ses coéquipiers, Jovanovic.
C'est sévère, hein. Je suis sûr que Ludo t'en a dit des pires à l'arbitre et que t'as même pas pris un jaune, quoi.
C'est quoi la pire insulte que t'as dit à un arbitre?
J'ai rarement insulté les arbitres, mais non, c'est vrai. Mais j'ai dit à monsieur Chaperon qu'il était zéro. Et ça m'a coûté 3 matchs de suspension quand même.
C'est vrai?
Parce que c'était en Coupe de France.
Est-ce que du coup ça fait chaperon rouge?
Ça fait double chaperon rouge puisque.
Juste, vous êtes zéro, mais j'ai pris 3 matchs.
On a pris 3 matchs.
T'as dit zéro?
Moi et Yokabay, on a pris 3 matchs.
Attends, c'était quoi la formulation? Tu le voyais, c'était quoi?
Ah, vous êtes zéro.
Ah, en plus, tu le voyais.
Vous êtes zéro?
Vous êtes zéro.
Mais comment tu t'es défendu en commission de discipline?
Mais je l'ai pas raté, il est passé dans le vestiaire il y a pas très longtemps.
Oui, je me suis
occupé de son
cas. Comment tu t'es défendu en commission de discipline?
Je me suis pas défendu parce que t'as une assemblée de personnes.
Rien dire.
Mais ils attendent le buffet en fait. Donc,
il a pas compris. Je dis vous êtes Zorro.
T'as nombre de personnalités qui sont là. T'as un médecin, un dentiste.
Ah, ce qui est important d'ailleurs pour juger ça.
À la Fédé. Ouais, ouais. Donc du coup tu parles dans le vide. Donc
le syndrome du petit chef, c'est bien. Voilà.
Ouais. Guillaume, tu voulais rajouter un truc ou pas?
Ouais, moi ce que je voulais rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si Souza n'y arrive pas, après tous les entraîneurs qu'on a essayé, honnêtement, ça va être compliqué. Hein. Qui pourra prendre la place de Souza et qui pourra avoir des résultats avec les Girondins, surtout avec le peu d'effectifs que l'on a. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, donc on voit partout que cet été les Girondins vont recruter 5 ou 6 joueurs de bon niveau, mais je suis pas sûr que les Américains soient comme à Marseille avec une enveloppe de 100 millions. Je pense que ça va être très compliqué, hein. Hormis passer par un mec qui fait jouer de jeunes joueurs, qui arrive à développer quelque chose. Donc Souza, hormis ça, on n'a pas d'autre solution. Et derrière, ça m'inquiète un peu pour l'avenir.
T'as quand même quelques bons jeunes à Bordeaux, hein. On les connaît, on va pas lister Tchouaméni et compagnie. Et puis même s'il est un petit peu sulfureux, controversé, je sais que Nico sera pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que Varela a quand même quelques contacts pour récupérer quelques jeunes de très à très fort potentiel, et il a déjà montré.
Ben, il a surtout recruté un directeur sportif qui est censé faire ce boulot. Hein.
Mais il a le réseau, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais son directeur sportif est là pour eux aussi.
Rien que la présence de Paolo Souza peut convaincre certains joueurs.
Après, sincèrement, la ville est sympa, le club est sympa. Enfin, ils ont quand même aussi une capacité d'attraction qui est intéressante.
Je vais ajouter une dernière
surtout pour des joueurs qui vont pas être très chers.
C'est que le parallèle entre la FIO de Paolo Souza et le Bordeaux de Paolo Souza, pour moi, il est parfait parce que t'as deux villes qui sont très attrayantes. Quand t'es un joueur de foot, tu veux vivre dans une belle ville. Ludo, tu me diras pas le contraire. T'as joué à Bordeaux. C'est deux villes où la qualité de vie est énorme. Ouais. Et c'est deux équipes qui avaient pas forcément non plus des moyens extraordinaires. Et à chaque fois, Paolo Souza, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément des foudres de guerre, enfin, du moins à la Fiorentina, a eu des résultats et les a fait bien jouer. Donc moi, j'y crois.
Et pour en finir avec le dossier Jovanovic, donc, qui a été exclu, Nico Paolo Orsi, là, nous signale que Paolo Souza allait justement recadrer son joueur également. Il a pas apprécié le fait qu'il insulte l'arbitre finalement.
Il a dit fuck off, c'est pas insulté.
Oui, bah écoute. Après, peut-être qu'il a dit autre chose aussi, on sait pas.
S'il lui a dit fuck off, il a pas insulté.
Guillaume, merci d'avoir été avec nous.
Merci les gars.
Bonne soirée, Guillaume. À bientôt.
Profite bien, ciao.
À bientôt.
Ouais, ciao.
Voilà. Rien à rajouter, les mecs, sur ce match?
Eh bah si. C'est dommage qu'à la dernière minute, un Bordelais n'ait pas mis une frappe à l'extérieur de la surface. Ils auraient gagné, les cons, ils auraient gagné 4-3.
Ah bah attends, parce qu'on voulait en reparler plus tard, voilà, parce que on a Christophe Galtier notamment qui s'exprime là-dessus. Tu sais quoi, j'ai pensé à toi hier quand, parce qu'on a passé la vidéo hier des propos de Jacques-Henri Hérault.
Ah putain, stop.
Oh, Galtier. Mais il faut arrêter le sketch là, c'est bon.
Hein, Christophe Galtier lui a mis un coup de sulfate. Oh, non mais, c'est terrible.
Les gens, en fait, plus ça continue et plus Jacques-Henri Hérault ridiculise ce grand club qu'est l'Olympique de Marseille. Il faut un moment que ça s'arrête. Monsieur, faut partir, c'est tout, quoi. Ça suffit. Je suis désolé, contexte ou pas, j'entends toutes les excuses possibles imaginables. Il est un truc de la French Tech, organisé par Challenge, un truc de start-up. Mais même, t'es président de l'OM, sors pas des saucisses comme ça, c'est pas possible.
Tiens, vous voulez qu'on l'écoute ou pas, Christophe?
Ah bah oui. Ah bah,
demain, il y a Lille-Nîmes, ça à 15h, c'est après-demain d'ailleurs.
Gros match, hein, les gars.
Il manie l'ironie avec grand talent, là.
Ouais, justement. Alors, Christophe Galtier, qui a eu un clin d'œil vis-à-vis de Jacques-Henri Hérault après cette proposition, cette suggestion du président de l'OM, voilà, qui dit, en gros, FIFA, ils ont inventé un truc génial. Quand on met un but en dehors de la surface, ça compte double. Bah, pourquoi est-ce qu'il faut attendre eSports pour avoir cette idée? La réponse de Christophe Galtier aujourd'hui en conférence de presse.
On anticipe les futures règles de la FIFA, parce que j'ai lu que M. Hérault, président de l'OM, à qui je fais un clin d'œil, avait dit pourquoi pas faire comme dans le jeu FIFA, faire en sorte que les buts marqués à l'extérieur comptent double. Ben nous on anticipe, on sait jamais que si la FIFA décide de modifier ce truc-là, qu'on soit mieux sur un plan défensif. Non, tout, plus sérieusement, une équipe qui concède pas beaucoup de tirs est une équipe en bonne santé.
Voilà.
Lui qui lui fait un clin d'œil, il lui met un coup de hache.
Bah, elle a bien raison, non mais. Et franchement, Jacques-Henri Hérault, toutes les sorties qu'il a eues cette saison, il s'enfonce, le club va mal, il y a une saison qui est catastrophique, on va pas revenir là-dessus, on a développé un long, en large et en travers, mais là, très franchement, la honte qu'il met aux supporters de l'Olympique de Marseille, c'est petit. Et en plus, j'écoutais le podcast hier tout à l'heure en courant, quand il dit le FC Lyon.
Le football club de Lyon, ouais.
Vous trompez pas, hein, c'est fait exprès. Démagogie pure et dure. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est hyper présent sur les réseaux sociaux qui guettent à mort ce que un petit panel de supporters olympiens un petit peu favorisés disent sur Twitter. Et tu sais que la grande mode chez certains supporters de l'OM sur Twitter, c'est de pas appeler l'Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais, mais de l'appeler le Football Club de Lyon, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique.
Sachant que c'est un club qui existe vraiment, hein, on le disait hier, fondé à fin 19e. Et d'ailleurs, Edouard Gey nous expliquait que c'est le club des formateurs de jeunes à Lyon. Voilà, ouais. Le Football Club de Lyon.
Et tu sais, pour conclure là-dessus, parce qu'après moi j'en ai marre de parler de Jacques-Henri Hérault et de Rudy Garcia, mais j'ai trouvé que ce que Jérôme Breton hier a dit était très juste. Quand tu connais pas le foot, faut pas être à la tête d'un club de foot, encore moins l'Olympique de Marseille, donc dehors et vivement la saison prochaine.
Les gars, on va parler du coup du Paris Saint-Germain, parce que c'est un club que tu aimes bien aussi. J-1 avant la finale de Coupe de France, ce sera demain à 21h, match entre Rennes et Rennes et l'Olympique, tu vois, lapsus, et le Paris Saint-Germain. Rennes PSG demain à 21h, donc écoutez-moi ça, tiens, petit son qui a été sorti. Les paroles sont sympas.
Ouais,
elle s'appelle Manon. C'est une chanteuse qui est supportrice du Stade Rennais. Ouais, et elle a fait une.
Il faut trouver.
Comment ça s'appelle
Qui identifie beaucoup plus le club. Mais bien sûr.
C'est rigolo. Écoute tes paroles. Écoute juste un couplet. Vas-y.
Qui contrôle le terrain.
Avec lui. Je peux te dire que Jérôme Thomas, il écoute ça en boucle lui aussi en courant.
Comment s'appelle le mec qui a composé cette chanson à la
base?
Alors déjà, c'était de la merde. C'était vraiment...
Il y a plein de gens qui aiment bien, arrête.
Mais alors, c'est nul, c'est tout.
Mais arrête.
Top, ça suffit.
C'est nul,
c'était nul. Et alors,
mais Riolo sort de ce corps, merde. On a le droit d'aimer des trucs différents de toi en disant que c'est pas nul.
Daniel, à côté de moi, sur la musique, c'est un progressiste. Il est beaucoup plus tolérant que moi. C'est nul, c'est tout. Donc c'est un peu décevant.
Daniel, progressiste, je pense qu'il va mal le prendre.
Daniel, pour la musique et le cinéma, c'est un progressiste.
Je sais pas, moi. T'aimes bien la musique de la Ligue des Champions?
Non, pas trop.
Bah lui, il déteste, hein.
Pas mon truc.
Putain, moi j'adore.
Ah, j'adore, moi aussi.
Voilà. Laisse tomber, on les débouffe, mon kiff.
Non, mais ça, je peux comprendre, parce que c'est un petit peu de Madeleine de Proust, ça te rappelle des souvenirs. Ça, c'est nul. Et il a raison, Ludo, fait un truc un petit peu régional, je sais pas, un truc qui représente un peu plus ta région.
Ouais,
c'est une région
on amuse et tout, quoi. Faut forcément tomber dans le cliché.
Pas forcément.
Arrête, c'est toi qui es ridicule.
Représente.
Bah arrête.
La
galette,
quoi,
aussi.
Non, pas ça, c'est quoi, là? Non, là, Valais, c'était comment?
Ah oui, Manon. Elle, c'est Manon, tu vois. Mais...
Bon, en tout cas, bravo à la jeune Manon, excusez-moi, je veux pas lui, mais bon.
Non, là, Valais, wow, le stade René, c'est pas mal, non?
Pas mal,
ouais. Je t'en fais une, hein, si tu veux. Demain, je te fais une chanson, mon Jérôme. Quelques infos sur cette finale. Sachez que du côté du PSG, Kerrer est forfait, il est touché à la cuisse.
Bonne nouvelle.
Julien Stéphan
pour Paris.
A expliqué que côté René en conf de presse, il a expliqué qu'il espérait pouvoir compter sur Ben Sebaini, justement, et sur Zéphane. Siebatcheux est toujours en phase de reprise. Mais, ah, merci voilà. Montorès.
C'est nul, mais il y a des chansons, il y a des chansons celtiques qui sont vraiment très.
Avec quel âge, toi,
ça? J'étais 13 ans, non? 14 ans? Non, je crois pas.
T'as quel âge? Attends, t'es 4?
Tu rigoles ou quoi? T'es plus vieux que nous, hein?
On est des jeunes, nous. T'es la génération au-dessus, déjà, mon Nico.
Ouais, ça, bon, ça a bien 20 ans, ça.
Regarde, t'as de la barbe, d'ailleurs.
Nous, on en a pas.
J'aime plus envie de faire des missions, je suis
tout. D'autres infos également sur cette finale. Vas-y, baisse, mon Toto. Merci. Les membres du CUP, le collectif Ultra Paris, qui seront au Stade de France, ils seront au nombre de 1500. Alors, tiens, également, autre info qui vient de West France. Il y a un avis de tempête sur Rennes également. Il y a un écran géant et qui est prévu par la ville sur l'esplanade de Charles de Gaulle. Sachez, amis Rennais, qu'elle n'est pas menacée. Voilà, finalement, ça devrait être moins grave, ça devrait souffler moins fort que prévu. Premier débat concernant ce match. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'une victoire du Paris Saint-Germain pourrait sauver la saison du club? La question a été posée à Marquinhos en conf de presse. Je vous vois venir. Ah bah non. Réponse de Marquinhos.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord valoriser les choses qu'on a gagnées. Et voilà, on commence avec le trophée des champions, avec le championnat. Ça, on a avec nous déjà, et c'est important de gagner des titres. Et, mais voilà, nous on connaît l'ambition du club. Et une fois qu'on a laissé passer la Coupe de la Ligue, la Coupe de champions, la Champions League, voilà, ça joue beaucoup de choses sur ce match de demain.
Voilà, supporter du PSG, on vous attend pour répondre à Marquinhos notamment. Alors lui, il dit oui, une victoire en Coupe de France pourrait sauver la saison.
Ludo, il dit pas vraiment oui. Nicolas. Ah ouais, la dernière fois, je t'ai appelé Nicolas, t'as dit que j'étais un
insensé. Tu m'appelles Ludo.
Excuse-moi. Nico. Je pense qu'il dit oui, parce qu'il répond un petit peu qu'il est pas français, qu'il répond génériquement oui, mais son explication est plus intéressante après, où il dit, voilà, on a foiré notre saison.
Il parle super bien français, il comprend très bien la question.
Il est pas non plus, tu vois. En fait, il dit oui.
La question,
mais après,
mot pour mot, c'est celle que je t'ai dite. Est-ce que vous pensez qu'une victoire demain en Coupe de France pourrait sauver la saison du PSG, alors que vous avez été sorti en 8e de finale de Ligue des Champions?
Lui, il dit oui. Si on s'en tient juste à oui, on a envie de lui dire, Marquinhos, t'es bête. Bien sûr que non, c'est une victoire en Coupe de France ne va pas sauver ta saison. Mais c'est ce qu'il dit après qui est intéressant, quand il dit que, eh ben, quand il y a plus la Ligue des Champions et que le championnat déjà gagné, la Coupe de France, c'est important. Mais la réponse, évidemment, que tu gagnes la Coupe de France ou pas, ta saison, elle est ratée. C'est une des pires saisons de l'ère Qatari depuis que les Qataris sont arrivés. Donc, je vois même pas s'il y a besoin, je vois pas là où c'est besoin d'argumenter, en fait.
Ludo, t'es d'accord avec Jonathan ou avec Marquinhos, toi?
Bah, tu peux pas balayer d'un revers de la main le fait d'être champion de France, puisque Monaco est venu te piquer un titre entre gagner une Coupe de France non plus, c'est pas négligeable.
Après,
par rapport aux autres équipes, c'est pas dire si je me base sur les autres championnats, si on te dit la Juve gagne le championnat et la coupe et qu'ils sont éliminés en quart ou en huitième.
En huitième contre l'équipe C de Manchester.
Mais oui, attends, laisse-moi finir. Si tu veux, ça me paraît dans des championnats qui sont plus compétitifs, où le c'est plus difficile d'être champion que chez nous, parce que chez nous on s'est habitué depuis longtemps à ce que le PSG écrase la concurrence. Donc nous on se base que sur la Ligue des Champions, effectivement, pour savoir si le PSG a réussi sa saison ou pas. Or là, ils ont encore fait une fève en huitième, donc forcément pour nous la saison elle est ratée. Après c'est un débat qui est compliqué, parce que on peut pas dire que être champion et gagner une Coupe de France, c'est à la portée de tout le monde non plus, tu vois.
Non mais attends, là je suis d'accord avec ce que tu dis, mais t'oublies un détail. C'est pas se faire sortir en huitième, c'est se faire humilier.
Est-ce qu'on parlait de saison ratée quand, j'ai pas eu l'impression qu'on parlait plus de saison ratée les saisons précédentes, mais, tu vois, alors que le bilan il est quasiment c'est kiff la bourrique.
Ah,
tu vois,
alors écoute, je pense que par exemple,
sauf que t'as fait un quart au mieux d'un huitième, ouais, tu vois, bon.
Mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est l'humiliation.
Mais c'est pas humilié.
Demande aux supporters parisiens.
Ils avaient la rage, ils avaient tout ce que tu veux, mais tu perds pas 6-0 face à United. Il y a cette fameuse main. Alors moi je déteste parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi un tournant du match, tu vois, ce péno qui est pas sifflé en fin de match. Alors il l'est pas, il y a pas de penalty, mais tu perds pas 4-0, tu vois, autant la remontada, je veux bien que tes sentiments d'humiliation.
C'est pire,
c'est pire parce que t'avais le passif, mais de là à dire que c'est une humiliation, je te trouve
Nico,
c'est chaud quoi.
C'est pire. Parce que c'était pas le FC Barcelone en face, c'était une équipe contre laquelle tu étais largement favorite, et au match retour, c'est comme ils disent sur Moscato, c'est Pipo et Bimbo qui jouent en face. C'est l'équipe C de Manchester. Donc pour moi, cette année, c'est pire que la remontada.
Ce qui est dur à avaler, c'est que depuis quelques années, tu subis des traumatismes qui ne te servent pas de leçon. Ce match aller à Manchester, tu devais pas, le match retour, tu devais pas le prendre par-dessus la jambe en pensant qu'en ayant gagné 2-0 là-bas et le fait qu'il manquait un paquet de joueurs titulaires et influents dans cette équipe, que le match allait être facile. Ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont pris des propos de Kipembe hein, sur le petit montage qu'il nous fait après le match où il dit que finalement ils l'ont pris un peu par-dessus la jambe le match et puis finalement
c'est d'accord avec cette analyse Vidéo t'es d'accord avec le fait qu'il ait pris par-dessus la jambe, je pense que c'est ça la cause qui fait qu'ils ont perdu
pas que mais
je pense qu'ils se sont fait dessus c'est tout hein.
Non, je pense que le fait d'avoir pris le match par-dessus la jambe et le scénario du match a réactivé des peurs. Ça s'est réactivé, mais au départ, je pense qu'ils ont eu un excès de confiance qui a provoqué cette peur après en cours de match.
Franchement, je suis estomaqué de ce que vous me dites, que vous trouvez pas que c'est une humiliation pire contre Manchester que par rapport à la remontada.
Non, mais enfin, si tu recontextualises et que tu sais ce qui s'est passé au préalable, d'accord. Mais enfin, moi, je trouve que dire que ce match retour est une humiliation, moi, je trouve que ouais, c'est un mot qui est fort. Ouais.
C'est une humiliation. Déjà,
tu veux que je te dise. Je trouve que c'est pas un vocabulaire qui est adapté pour ce genre de choses. Mmh. Tu vois,
pourquoi?
Parce que c'est pas. C'est comme les termes guerriers. Je trouve que c'est complètement con. Il a fusillé le gardien. Il a les mecs. À un moment, enfin, il y a des images qui sont complètement cons dans un sport.
T'as compris ce que je voulais dire?
Oui. Mais je trouve qu'il y a des termes. J'avais travaillé pour un canard. On était et même à l'époque où je commentais, il y avait certains termes qui étaient bannis de notre langage et ça en faisait partie.
Mais tu vois, enfin, encore dans la préparation de ce match-là. Tu vois que toutes les conditions sont pas réunies pour que cette équipe elle puisse un jour passer un cap dans la conduite quand tu vois encore ce qui le cas Neymar, on peut encore se poser un paquet de questions quand même sur ce est-ce que ce garçon qui est pour moi un joueur exceptionnel qui devrait à chaque fois qu'il joue il est plutôt mais se pose la question de comment on gère le cas Neymar. C'est-à-dire que lui, en bonne intelligence, lui qui vient pour, on comprend plus ou moins qu'il vient parce qu'il veut gagner le Ballon d'Or à Paris et la Ligue des Champions par la même occasion, parce que ça a jamais été fait encore. Est-ce que ce garçon, il peut pas se dire à un moment donné, est-ce que j'ai envie de d'être Beckham ou est-ce que j'ai envie d'être Messi ou Ronaldo? Si tu veux, être un grand champion, ça demande un tas de sacrifices, mais aussi une hygiène de vie. Quand tu permets de...
Beckham, je pense qu'il avait une hygiène de vie qui était pas mal aussi.
Comme, il avait pas le talent de Neymar non plus.
Non, mais il avait beaucoup. À un moment donné, tous ces trucs hors football.
Il a joué jusqu'à quel âge, Beckham?
Non, mais je te parle pas de l'âge. Je te parle de l'énergie que ça te pompe à un moment ou un autre. C'est-à-dire que Nike, c'est le sponsor du club. C'est le sponsor de Neymar. Ouais. Tu peux pas te dire qu'à un moment donné, à telle date, il va y avoir telle échéance. Ouais. Et là, il va y avoir tel truc. C'est peut-être pas bien de faire ça à tel moment. Alors, bien sûr, c'est une icône commerciale. Mais c'est là où je te dis, est-ce que t'as envie d'être Beckham ou est-ce que t'as envie de...
Mais Ronaldo, c'est une icône commerciale.
Ouais, Ronaldo, mon pote.
Oui, mais donc tu peux faire les deux.
Mais je veux dire,
c'est moins
Neymar.
T'as vu sa préparation, l'entraînement invisible, ce qu'il fait.
C'est pour ça que je te dis que l'aspect commercial, c'est pas forcément un argument.
Vous êtes injuste parce que Neymar à Barcelone, il faisait la même chose. Hein. Il allait au Brésil pour l'anniversaire de sa sœur. Il partait en virée à droite à gauche.
Non, mais t'as des décisions avec des Jonathan. T'as 27, 28
ans.
C'est-à-dire que t'as beau faire ce que tu veux, quand t'as pas l'hygiène de vie d'un mec comme Ronaldo, les années passent et les années ça pèse. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai été.
C'est une vraie question. Est-ce que tu penses vraiment que c'est à 27 ans que tu vois la différence?
Mais tu commences à le sentir forcément à chaque fois que tu prends une année.
C'est une vraie question. Et, hein.
Bien sûr que oui.
Alors les gars, on va revenir dans le débat. On sera avec Eddy et Nico, supporters du PSG, dans quelques instants. Est-ce que le PSG, une victoire demain du PSG en finale de Coupe de France peut sauver la saison? On vous attend au 32-16 pour répondre à cette question avec Ludo Bragnac et Jonathan Macardy. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan Macardy, nous sommes à J-1 de la finale de Coupe de France entre Rennes et le Paris Saint-Germain, finale que vous suivrez sur RMC bien entendu, et on vous pose cette question, supporter du PSG, une victoire du PSG demain peut-elle sauver sa saison? Marquinhos a dit oui, aujourd'hui en conférence de presse, accueillons Eddy, supporter parisien qui nous a appelé au 32-16, bonsoir Eddy.
Bonsoir à tous.
Salut Eddy.
Alors Eddy, est-ce que t'es d'accord avec Marquinhos toi?
Bah après Marquinhos, il a un discours un peu, je vais dire corporate, et
c'est ça, ouais.
il essaye de sauver la face. Comme disait Jonathan tout à l'heure, il a un discours un peu générique qui consiste à rendre un peu tout beau tout rose. Mais moi, je suis pas du tout de cet avis. Je pense que, alors, j'aime pas qu'on dise que la saison du PSG s'arrête à chaque fois qu'ils sortent à chaque fois qu'ils sortent de la Ligue des Champions.
On est
d'accord. Malheureusement,
c'est la manière, Eddy.
Exactement. C'est en fait le problème, c'est que moi j'étais au parc et ils s'imaginent pas la souffrance qu'ils nous infligent. Et le problème, c'est que moi, gagner la Ligue des Champions, etc. Alors c'est un objectif qui se fixe, mais moi personnellement, c'est pas d'une importance capitale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est la prestation, c'est la fierté, c'est le match qu'on va faire, c'est les missions qu'on va prendre. Alors, au début du projet.
Attends, Eddie, bouge un peu, on t'entend mal là.
Ah, vous m'entendez mieux là ?
Là, c'est mieux, c'est nickel, ouais.
Ouais. Je parlais du début du projet. À l'époque de Leonardo, ça allait dans le bon sens. C'est-à-dire, la première fois qu'on était sorti là contre le Barça sur deux matchs nuls, voilà, on avait pris une leçon. Je me suis dit que l'année d'après, ça allait aller mieux. Et là, d'année en année, c'est de pire en pire. Donc non, la Coupe de France, ça va pas sauver notre saison. Par contre, ça peut nous mettre dans la crise si on la perd. Et honnêtement, vu tout ce qui gravite autour de l'actualité du Paris Saint-Germain, j'ai bien l'impression qu'ils sont capables de nous faire une tuile demain.
Ouais.
Au vu des absences, des blessés.
Ah, mais t'inquiète, Kerrer jouera pas, donc t'as une chance en plus.
De quoi ?
J'ai dit Kerrer jouera pas, t'as une chance en plus quand même.
Ouais.
Non, mais j'ai une question, Eddy. Non, il est jeune en plus, c'est vrai.
Jeune, et puis je pense que là, il a pris un coup sur la tête après le match de Manchester, donc je pense qu'il faut être hyper patient avec lui.
J'ai une question. Deux questions. La première, c'est est-ce que toi, parce qu'on avait un petit débat avant la pub avec Ludo et Nico, pour toi, qu'est-ce qui a été pire ? C'était Barcelone ou Manchester ?
Mais non, on n'a jamais eu ce débat, qu'est-ce que tu racontes, toi ?
Jamais dit qu'est-ce qui a été pire. Enfin moi je compare même pas. Je te dis que ce qui a fait mal Manchester, c'est qu'il y a eu le Barça avant. On l'a jamais dit qu'est-ce qui est pire que l'autre.
Est-ce que tu t'es senti humilié parce que par le match contre Manchester?
Ouais, je me suis senti humilié. Ouais. Je me suis senti plus qu'humilié parce que je me suis senti humilié par l'attitude. C'est-à-dire qu'ils arrivent chacun de leur côté en voiture comme des gros stars. Voilà, c'était bouclé. Et finalement, voilà, c'est les mêmes erreurs de chaque fois. T'as des gars comme Buffon qui arrivent à se souiller sur des matchs comme ça. T'as l'impression que c'est dans l'ADN de ce club, quoi. En fait, moi, à la mi-temps, j'étais au parc, hein, et à la mi-temps, j'ai envoyé à des textos à des potes et je leur ai dit, c'est bon, on va sortir, les gars. Je le sens arriver gros comme une maison. Je le savais. L'attitude n'y était pas parce qu'ils n'étaient pas dedans, parce qu'il n'y avait pas. Je sais pas ce qui manque à cette équipe et j'ai l'impression que il y a un manque de rigueur, il y a un projet qui n'est pas défini et j'ai l'impression
il y a un manque d'autorité à tous les échelons du club, mais ça on le sait.
D'ailleurs, les dirigeants, ils ont disparu là, on les voit plus là depuis quelques mois là.
Il y a
Nasser ni Antero, tu les as vus là ces derniers temps?
Alors ce qui a été curieux avec Antero,
mais il sert à quoi?
Non mais ce qui est curieux avec Antero, c'est qu'on l'ait entendu. C'est-à-dire moi en 10 ans à Porto, il a fait une interview et encore c'était à ses débuts, il parlait jamais. Il a jamais autant parlé que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Antero Henrique. Donc et encore, tu vois, si c'était pour dire au lendemain de l'élimination, Rabiot aurait pas dû sortir en boîte, etc.
On en vient regretter quand même la première année où Leonardo était là, quoi.
Leonardo Ancelotti, c'était le top. Et la deuxième question par rapport au débat central qu'on a sur ce thème-là, c'est pour toi, Eddy, si le PSG gagne la Coupe de France, admettons que le PSG gagne la Coupe de France par rapport à toutes les saisons de l'RQSI, est-ce que tu penses que c'est comment tu juges la saison? Est-ce que c'est une des pires saisons? Est-ce que c'est la pire saison? Comment tu la considères cette saison-là?
Alors, si on gagne la Coupe de France, pour moi, on boucle la saison. Voilà, on ferme la boutique, on passe à autre chose.
Et tu la considères dans l'RQSI cette saison? La pire, ouais, une des moins pires?
Ça change.
Si on regarde les moyens qu'on a eus la physionomie de la saison, c'est la pire. Bah oui, c'est la pire. Voilà. C'est la pire et j'ai l'impression que l'année prochaine ça va être encore pire.
Les supporters du PSG disent ça tous les ans, mais c'est vrai. Avec Laurent Blanc c'était pareil, avec Emery c'était pareil, et là t'as toujours ce goût amer, je pense, pour les supporters du PSG des éliminations en Champions. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur Neymar, parce qu'il y a une info quand même qui est tombée aujourd'hui qui est importante. C'est vrai qu'il s'est emporté sur les réseaux sociaux après l'élimination face à United. Justement, il avait balancé sur Insta, c'est une honte, on met quatre mecs qui ne comprennent rien au foot pour regarder un tir au ralenti devant la télé, il n'y a rien. Alors c'était justement notamment sur la fameuse action, le péno non sifflé. Comment le mec peut mettre ses mains ailleurs? Allez vous faire foutre. Il a pris 3 matchs de suspension par l'UEFA pour la saison prochaine. Il jouera pas donc les 3 premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions la saison prochaine. Neymar qui était également à Turin hier soir. Alors a priori c'était pour l'anniversaire de Douglas Costa. Certains disent que c'était pour des opérations.
C'était l'anniversaire de Douglas Costa. Voilà.
On va écouter Thomas Tourelle, justement à qui cette question a été posée. Est-ce que ça le gêne l'entraîneur du PSG de savoir que Neymar était hier à Turin? Sa réponse aujourd'hui en conférence de presse.
Je ne sais pas de cette chose parce que je suis l'entraîneur, je suis pas le PR et je suis pas la police et pas un détective. Je suis entraîneur et il était dans l'entraînement hier et il est avec nous aujourd'hui et c'est comme ça.
Mais il lève pas les bras, Joe. C'est pas son rôle à l'entraîneur. C'est pas son rôle. Tu dois avoir un mec ici, tu dois avoir un directeur sportif, tu dois avoir quelqu'un qui lui doit faire le taf. L'entraîneur, il est pas là pour faire la nounou, le flic, c'est comme il le dit. Il a tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il le dit.
Exactement, par rapport à ce que tu dis, t'as totalement, c'était pour ça. C'est parce que je pense que il y a un manque d'autorité flagrant dans ce club-là, que c'est pas à l'entraîneur de faire la police. Mais après, juste ce que je vais ajouter, c'est que quand même, je trouve que Tourelle, il est quand même inconstant sur le coup. Parce que par rapport à ce qu'on connaissait de lui, qui allait faire les placards de Gundogan pour enlever le ketchup, qui sonnait chez lui pour regarder ce qu'il bouffait, quand même anormalement indulgent.
On est d'accord que pour faire signer Neymar, quand tu fais venir Neymar, c'est pas le premier choix de Neymar. Donc ça veut dire que dans le contrat que t'as passé avec lui, t'as dû avaler quelques couleuvres en termes de marketing, de ci, de ça. Il a dû avoir des avantages. Quand on revoit les contrats qu'ont eu Mbappé et compagnie, qu'on a fouillé un peu, il y a des trucs qui sont totalement aberrants dedans, où t'as des passes droits, des choses assez drôles, on va dire. Et voilà, tu pars de ce principe-là. Après, moi, j'aimerais que ce garçon, il prenne un peu de maturité, un peu plus de, tu vois ce que je veux dire?
Je suis d'accord.
Mais il se dit pas à un moment
Ludo,
donné,
vas-y.
Je viens de prendre 3 matchs de suspension. Je serai pas là l'année prochaine. J'ai raté une grande partie de la saison. L'année dernière, c'était pareil. Je suis venu à Paris pour essayer de faire grandir le club, de me faire grandir, de me positionner pour le Ballon d'Or.
Mais là,
à quel moment il va se dire, mais il faut que je fasse attention à moi, attention à ma santé.
Tout à fait d'accord.
Et essayer de
Non mais après il est grand au cinéma. Je veux dire il y a une responsabilisation aussi qui est personnelle. L'entraîneur.
Mais
justement.
Un peu de plomb dans la cervelle.
Oui. C'est pour ça quand on dit. Enfin je sais pas. Moi je comprends ce que veut dire aussi Tourelle. En gros si gars là il va falloir que tu joues. T'as intérêt à répondre présent quoi.
Après il y a une chose quand même et encore une fois j'ai pas envie de mettre la pièce dans la machine comme pour Jacques Henriero et Rudy Garcia mais pétard les gars Nasser il est où quoi dans ces cas-là. Il est porté disparu, on l'a entendu.
C'est lui qui l'a accompagné.
Ah mais ça c'est aberrant. Ça c'est le problème en fait. Le problème au Paris Saint-Germain, c'est le même problème qu'à l'Olympique Lyonnais et qu'à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que les joueurs passent à côté de leur saison relativement à leur objectif. Et c'est que les 3 présidents sont pathétiques sur cette saison-là.
On remercie Eddy, supporter du PSG qui est avec nous. Bonne soirée Eddy.
Merci à tous.
À bientôt.
Bonne soirée.
Salut Eddy.
Merci,
Eddy.
À bientôt. Salut.
Il y en a qu'un Nico, supporter du Stade Rennais. Alors je dis que c'est un supporter du PSG. Tu le prends pas mal Nico.
Non, je suis supporter du Stade Rennais avant tout.
Parce qu'en fait, il y a marqué supporter Rennes et derrière, il y a le début de ton idée. Voilà, Paris a tout à perdre demain. Alors, t'es confiant, toi? Comment tu le sens ce match, justement? Est-ce que tu penses que Rennes peut créer l'exploit ou t'as peur de la fessée, finalement, face au Paris Saint-Germain?
Bah, l'équipe qui a plus à perdre demain, c'est le PSG. Rennes, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Coupe d'Europe ou en Europa League, on s'est pas mal démerdé. En championnat, on est au milieu de classement et on fait quand même une finale de Coupe de France. Alors certes, c'est contre Paris. Alors ouais, par rapport à ta question, c'est sûr que demain, il va falloir mettre le bus devant, derrière et
évidemment. Surtout pas.
Bah le problème que si on joue, ça risquerait de faire mal.
Mais t'as rien à perdre. Non.
Attends, t'as regardé les derniers matchs du PSG, Nicolas?
J'ai pas entendu.
T'as regardé les derniers matchs du PSG?
Non, pas du tout.
Voilà. T'aurais peut-être dû.
Quand est-ce que Rennes a été bon en Europa League? Ah, au Bétis. Pourquoi
il a viré son entraîneur aujourd'hui?
On n'a pas été bon. J'ai pas dit que les prestations étaient
non,
bonnes.
Non, mais moi je te dis qu'au Bétis,
mis à part le match aller contre
qui est-ce qui a été dégueulasse? Je te dis pas que les prestations étaient dégueulasses. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que moi, on se comprend pas. Je te dis que moi, au contraire, sur le panache dont a fait preuve Julien Stéphan sur le match retour contre le Bétis de Séville, en laissant 6 joueurs à vocation offensive et en décidant d'aller presser assez haut, eh ben, c'est comme ça que tu crées, c'est comme ça que tu crées des exploits et c'est comme ça que tu crées l'incertitude. Exactement. Moi, je regardais, encore une fois, je reviens à l'émission de PSG, Daniel sur Transversal, Mauricio Pochettino, sur qui il y avait un focus et un documentaire, quand il arrive à l'Espagnol de Barcelone, il se rend bien compte que toutes les équipes qui vont à Barcelone, à partir du moment où tu te mets derrière, les mecs ils vont trouver la solution à un moment ou à un autre. Il se dit je vais essayer tenter autre chose, d'aller les chercher plus haut, et il a réussi son coup.
Aujourd'hui quand on lui demande quelle est sa meilleure expérience en tant qu'entraîneur,
Espagnol.
Il dit c'est l'Espagnol de Barcelone. Voilà, c'est, pour lui c'est l'expérience qu'il a le plus marqué dans sa carrière.
Nous on n'a rien à perdre.
Pourquoi tu veux mettre le bus, mon pote?
Non mais c'est sûr qu'on n'a rien à perdre. Sauf que si on est tout feu tout flamme avec des Ben Arfa, avec des Niang, avec des Sarr.
Mais c'est comme ça que t'as eu des résultats cette année face à des bonnes équipes.
Ils savent pas défendre. Ils savent pas défendre. Atem, Niang, tout ça, ils savent pas défendre.
Mbappé, Neymar, on va être un peu plus fébrile si on joue pas en bloc. C'est sûr qu'on va être un peu plus.
Il va falloir attendre. Mais jouer en bloc, ça veut pas dire mettre le bus. On va recentrer parce que là tu dis deux choses. Nico a totalement raison. C'est jouer en bloc. Non mais jouer, mais c'est vrai en plus mon Nico. Jouer en bloc, c'est pas forcément mettre le bus. En tout cas, la clé de ce match-là, du côté de Rennes, à mon avis, ça va être la solidité au milieu de terrain. Tu vas jouer avec Benjamin André et Clément Grenier. Il y aura Bourigeaud. Il y aura un autre joueur, notamment sur un des côtés. Et je pense que ce qui va être hyper important et qui a manqué à Rennes sur ces derniers matchs, c'est qu'ils n'avaient pas Benjamin André. Là, il y aura Benjamin André, qui est un petit peu le mec qui stabilise tout au milieu de terrain, à la récupération. Et je pense que Clément Grenier et lui forment un duo qui est formidable sur les phases de transition défensive aussi. C'est pas que des bons joueurs. Clément Grenier, c'est pas un joueur qui est juste bon offensivement. Et il va falloir maîtriser.
Oh le copinage.
Bon, arrête.
Oh le copinage.
Ça va. Mais je pense qu'il va falloir toute la clé du match, ça va être sur la capacité qu'auront Bourigeaud et Grenier à garder le ballon au milieu de terrain et à pas le rendre trop vite aux Parisiens. Mais il faut surtout pas mettre le bus.
Et ça va se jouer dans le, c'est-à-dire que si tu pars dans l'esprit d'aspirer un tout petit peu le PSG, t'as quand même des joueurs
hyper rapides
de contre-attaque qui peuvent faire très mal. Donc le match va se jouer sur la hauteur de ton bloc. Si tu décides de jouer dans tes 18 mètres, tu n'auras aucune chance parce que ça soit Atem, Sarr, quoique Sarr il a un peu plus, mais Ouniang, ils ont pas le volume de jeu pour répéter les efforts et faire 80 mètres de course. C'est des garçons qui seront très bons quand ils seront dans les 30-40 derniers mètres adverses, mais ne compte pas sur eux pour faire tout le match le piston sur les côtés.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la deuxième clé du match pour moi côté Rennes, c'est les côtés. Paris sur les côtés, on sait qu'ils sont friables défensivement, surtout en ce moment, et Rennes justement, ils ont les armes, notamment avec Sarr et Bourigeaud, pour leur mettre un maximum de pression dans deux registres totalement différents.
Donc Rennes a une chance.
Bien sûr, Rennes a une chance. Après, Paris est largement favori, tu vois. Si on doit faire une cote, je pense que Paris c'est un contre 10, tu vois. Mais Rennes a quand même sa carte à jouer.
Merci à Nico d'avoir été avec nous, supporter du Stade Rennais. Donc la finale de la Coupe de France qui sera à suivre demain entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain à partir de 21h.
Et puis attends, Bourigeaud, il a une bonne frappe de fort. Il suffit qu'il mette un but à l'extérieur de la surface, ça fait 2-0, hein, mon pote. Hein.
Il est marrant quand tu connais ça.
Je connaissais la patate de forain, la frappe de forain, je la connaissais pas.
La patate de forain, dédicace à mon pote,
la tête dans le panier, je te le dis tout de suite, hein.
On l'embrasse.
Tu peux pas mettre la tête dans le panier.
Mais si tu mets la tête dans le seau, tête dans le sac, mais pas dans le panier.
Si c'est un panier, c'est pareil.
Non mais tu connaissais l'expression patate de forain? Moi je fais un bisou à mon pote Nico, Seth Gecko, c'est lui l'inventeur de cette expression patate de forain qui sera au match demain, comme il dit dans sa chanson. Alors j'ai un peu du mal. PSG comme Paris Seth Gecko.
Ah, les inventeurs d'expression.
Attends, il est disco d'or, c'est un rappeur, il est un peu connu, il a rempli l'Olympien avec
la chanson. Des mots de ouf, des indigents machin, mais ce sera des points capital.
Mais je t'ai envoyé mes photos de Noël là. Tu as pas eu mon pote avec des tatouages sur le visage?
Non, j'ai pas fait gaffe.
T'as montré. Mais c'est lui qui a inventé cette expression.
D'accord, on est content.
Disco d'or, frère.
Le retour de Metz en Ligue 1 la saison prochaine. Le club qui a formé Ludo Bragnac, dans quelques instants on sera avec Renaud Coad.
Bravo.
Absolument. En direct avec nous dans l'after. Voilà qui va. Oui, il sera avec nous dans quelques instants. Renaud Coad, le FC Metz qui s'est imposé
l'âme de ce club. Renaud Coad.
C'est un petit moment qu'il est là quand même, Renaud Coad.
Voilà. Il va nous faire une Benjamin Nivet l'année prochaine. Hein.
Il a 34 ans. Hein.
Il va prendre ma place dans le cœur des supporters, Renaud, s'il continue.
Tu penses?
Ouais,
c'est un beau joueur.
Il a depuis 2016.
Hein. Non, il est devenu vraiment le taulier de cette équipe et il est plus que performant. Sur ces dernières saisons.
Et il sera avec
pas vraiment le même profil que
juste après ça, tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan Macardy et de Ludovic Obraniak, on a parlé de la Coupe de France qui nous attend demain, la finale entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. La victoire de Lyon, on le rappelle, 3-2 à Bordeaux ce soir également, 34e journée de Ligue 1. Et la saison prochaine, ils seront de retour en Ligue 1, les Messins, le FC Metz qui sera là, le club qui a formé Ludovic Obraniak.
Eh oui.
Bah, ça te fait plaisir, non? T'es content?
Plus que formé, j'ai commencé à l'âge de 5 ans jusqu'à pro. J'ai fait toutes les catégories dans ce club-là.
Eh bien, l'un des héros du FC Metz de cette saison est en direct avec nous dans l'after. Renaud Coat, bonsoir Renaud.
Bonsoir à tous.
Salut Renaud.
Renaud
Salut,
qui est sorti de boîte, du coup, pour nous lâcher quelques petits mots, c'est ça?
Pardon?
T'es sorti de boîte pour nous lâcher quelques petits mots, c'est ça?
À 23h42, à Metz, c'est rien d'ouvert, je t'annonce.
Dans le plus, là, derrière, alors.
Ouais, c'était à Beauvais, là, il jouait à Beauvais face au Red Star. Ouais. Bravo en tout cas, Renaud, pour cette victoire et cette saison. C'est quoi le premier sentiment là qui te vient justement? T'as déjà connu des montées avec Strasbourg notamment aussi?
Ouais, bah c'est beaucoup de satisfaction, un soulagement, voilà. Je pense que c'est mérité puisqu'on était leader depuis la deuxième journée. Donc non, c'est voilà, on est très content et de retrouver la Ligue 1 et de remettre le FC Metz en Ligue 1.
Alors c'est vrai qu'on a l'impression quand on voit le parcours du FC Metz cette saison que ça a été facile.
Ah, ça a été facile, pas tous les matchs, même ce soir ça n'a pas été facile. Mais bon, on l'a emporté. Après on se l'est rendu plus facile que la saison, on se l'est rendu facile parce qu'on a mis les ingrédients et voilà, on a un bel effectif, mais ça a travaillé dur pendant la saison. Il y a eu un bel état d'esprit et ça a porté ses fruits.
Ludo Braignac, il y a une question pour toi. Renaud Coat, on rappelle le FC Metz de retour en Ligue 1 la saison prochaine.
Bon Renaud, mon poulet, je pensais pas que je t'interviewerais un jour. Je pensais que t'arrêterais avant moi quand même.
Tu parlais d'hygiène de vie tout à l'heure. Renaud.
Ouais, mais c'est le rasage du bouc, ça.
Non.
C'est le même âge en plus, les gars, non?
Ouais,
34.
À quelques années près. Mais tu sais, Renaud, c'est tout l'allant un peu du circuit. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est là. T'as l'impression qu'il a 39 ans, Renaud, tu sais.
Non, mais il a...
Non, mais je tenais tout d'abord à te féliciter parce que tu reflètes l'état d'esprit de cette ville, de cette région et de ce club, alors que ça fait pas forcément très longtemps que tu y es. Je trouve que tu as pris une importance et un statut.
T'es même un peu jaloux d'ailleurs.
Ouais, un peu, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en ayant été formé au club, je pense que Renaud restera une figure importante après la fin de sa carrière. Mais je voulais savoir si je sais que tu tiens un vrai rôle depuis quelques saisons, mais est-ce que l'arrivée de Fred Antonetti a eu un vrai impact sur toi?
Oui, parce que déjà au début de la saison, après une descente, tu sais comme c'est, ça laisse des traces. Je savais pas si j'allais continuer ou pas au FC Metz, et c'est vrai qu'il m'a convaincu par rapport à ses compétences et son plaisir de jouer au foot, de rester, et voilà. Donc
j'ai l'impression qu'il t'a poussé à être beaucoup plus influent dans les 30 derniers mètres. T'as marqué beaucoup de buts cette saison. Je te vois beaucoup plus aux avant-postes qu'avant, non?
Ah, il est bon. Ça, c'était pour toi, ça. T'as dû régaler. Moi, j'étais le travailleur de l'ombre.
Mais justement, Renaud, puisqu'on parle de Fred Antonetti, alors il s'est absenté, il s'est mis en retrait depuis la fin de l'année dernière pour être auprès de son épouse qui est malade. Comment vous avez vécu, vous, cette période, justement, les joueurs?
Bah, c'est vrai que ça a été, c'est assez délicat. Maintenant, on s'est responsabilisé. Le groupe a été assez touché par cette situation, et voilà, ça nous a peut-être renforcé dans le fait de faire ce qu'il fallait pour atteindre nos objectifs et de satisfaire le coach et lui redonner le sourire de ce côté-là.
Ouais. Vous êtes en contact avec lui toujours, ouais?
Nous, les joueurs, pas trop. Après, on a des nouvelles par rapport à Vincent Ognon et Jean-Marie Desherby qui l'ont souvent au téléphone et qui nous passent des nouvelles dans le vestiaire.
Jonathan Macardy a une question pour toi. Renaud Coat en direct avec nous dans
bonsoir.
La
Bonsoir Renaud. Alors bon, bonsoir. Déjà bravo. Merci. Parce qu'en plus vous êtes un beau joueur qui est
tout. C'est à tout le monde lui, mais c'est incroyable.
Bah c'est pas de ma faute si on a joué, on n'a pas des mecs dégueulasses qu'on invite, tu vois. On en fait une sélection. L'adaptateur, c'est un peu le carré VIP. Il y a un physio, c'est Jérôme Thomas. Il invite pas n'importe qui. Donc non, mais bravo. Après par contre, je vais un petit peu faire le poil à gratter parce que donc Vous avez été très sérieux cette saison-là, mais moi, ce que je constate, c'est que la moitié de vos victoires sont par un but d'écart. Vous avez eu quelqu'un comme Diallo qui a fait le job, hein. Il a quand même mis 23 ou 24 buts cette saison. Mais on peut pas dire non plus que vous êtes un beau joueur, vous êtes un joueur créatif, que d'un point de vue du fond de jeu, ça pas été non plus hyper enthousiasmant. Mais vous avez été sérieux. Et moi, la question que j'ai, c'est par rapport à la saison prochaine en Ligue 1, selon vous, où est-ce que vous devez vous renforcer? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter de faire encore une fois l'ascenseur? Parce qu'on va rappeler que Metz, quand même, depuis le début des années 2000, c'est 5 allers-retours entre Ligue 1 et Ligue 2.
Renaud, voilà, désolé. Renaud, t'offusque pas, Jonathan est supporter de Brest, hein. Je te comme ça, c'est juste pour
voilà.
Pas de Jean-Marc Furlan.
Ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on n'a pas eu toujours des matchs flamboyants, mais c'est dû au fait aussi que les équipes, comme on est leader depuis la deuxième journée, nous attendent beaucoup en bloc bas et c'était pas facile de trouver les solutions. Donc, c'était des matchs après, souvent, dans un seul sens. Après, pour la saison prochaine, ben, on va déjà savourer la montée. Après, il y a le mercato, tout ça. On espère que le coach va revenir le plus vite possible. Et voilà. Et je pense que le club est dans un virage important. Il y a un nouveau centre qui arrive. Il y a une nouvelle tribune qui va être construite. Voilà, ça affiche les ambitions du club et on espère que sur le terrain, ça suivra derrière.
Tiens, Renaud Quad, une question aussi, parce que c'est vrai que Metz a vraiment fait le yo-yo, hein, entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ces dernières saisons. Si on remonte même à pas si loin que ça, en 2012-2013, le club était même en national, donc il a eu des montées successives. Comment le club peut se stabiliser selon toi?
On avait réussi à se sauver là il y a deux saisons quand même. Après, c'est vrai que l'année dernière on a fait un très mauvais départ et ça a été catastrophique par la suite.
Ouais.
Après, il faudra, c'est sûr, avoir un bel effectif parce que la Ligue 1 est très compétitive aujourd'hui. Et toutes les équipes sont compétitives et ont bel effectif. À nous de Bon, après, moi, je suis joueur, hein. Je suis là que pour jouer, donner le maximum sur le terrain.
Ah, mais vous avez une certaine expérience pour peut-être avoir un avis sur la question.
Oui, mais c'est sûr qu'il faudra se renforcer, bien sûr. Il faudra se renforcer. Après, c'est au coach et aux dirigeants de savoir où. C'est par rapport au départ qu'il y aura peut-être ou des arrivées. Mais
il faut déjà garder les meilleurs joueurs. Ce sera déjà une bonne chose. On constate souvent que les équipes qui arrivent qui montent et qui arrivent à se maintenir en première division gardent une ceinture importante de l'équipe qui est montée en Ligue 2 en apportant quelques retouches en ayant quelques bonnes idées sur le mercato. Il faut absolument que Metz se stabilise, en tout cas stabilise cette équipe et la renforce voilà, un petit peu.
Ouais. On a eu deux bons exemples avec Reims et Nîmes cette année, donc voilà, deux belles exemples à suivre. Voilà, mais je pense que l'état d'esprit est pour beaucoup aussi. C'est des équipes qui sont vaillantes, qui sur le terrain donnent leur vie, donc voilà, à nous de faire de même la saison prochaine.
Bon, merci. Quel but!
Gagnez maintenant vos places pour la finale de la Coupe de France de football. Rennes PSG. Envoyez foot par SMS au 732-16.
Voilà, c'est un jeu en direct, Renaud Coad, excuse-nous. Voilà, il y a des gens, ils peuvent gagner des places pour aller voir la finale demain. Si tu veux aller voir la finale demain, t'envoies foot au 732-16. Voilà, et tu peux aller voir la finale.
Une bonne petite gueule de bois, ils auront un peu d'affaires.
Je pense que demain, il y aura du mal.
Demain, c'est trace de cocaïne, des glaçons sur la tête, et puis une petite soupe pour éponger, hein.
Renaud.
Ouais.
Doucement aux loges, hein, ce soir.
Hein,
si tu savais ce qu'il nous a dit Ludo sur toi là-bas.
C'est le patron, pas que sur le terrain, c'est le patron.
C'est une légende là-bas, il est plus connu que la cathédrale à Metz.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Il commence à faire son
nom. Et encore bravo Renaud et bonne route, bon retour sur les prudences sur la route.
Merci,
bonne soirée. Renaud Quad qui était donc en direct avec nous dans l'after. Le FC Metz qui sera de retour en Ligue 1 la saison prochaine. On est avec Laurent, conducteur de bus. Tiens, justement, ça se trouve, c'est lui qui est en train de conduire le bus là des Messins jusqu'à Metz. Bonsoir Laurent.
Bonsoir les gars,
salut Laurent.
Je suis conducteur du FC Metz, mais non, malheureusement, je suis conducteur en zone urbaine et loin d'Orléans.
Donc toi, tu conduis des bus et non pas des cars, parce qu'il était dans le car.
Exactement, c'est ça, ouais.
Tu sais la différence entre les deux?
Oui.
C'est quoi?
Ben vas-y, tu vas me dire.
Bah, le bus, c'est justement dans une ville. Et le car, il transporte des gens d'une ville à une autre.
C'est ça. Et puis dans le bus, en réalité, il n'y a pas de soute pour mettre des bagages en dessous. C'est ça la grosse différence aussi.
Ah ouais, ça je savais pas, tu vois.
Ouais, voilà.
C'est important.
On a appris quelque chose, c'est super. Voilà.
Dédicace à Stéphane Coller également, qui est très pointueux là-dessus. Vas-y Laurent, on imagine que tu étais content. C'est pas une surprise non plus. Hein.
C'était non, en fait c'est vrai que c'est pas une joie exubérante comme quand on joue vraiment la montée sur une dernière journée par exemple. Mais c'est un soulagement parce que c'est vrai que 3 ça va vite derrière, donc on sait jamais ce qui peut se passer sur une fin de saison, mais c'était une saison vraiment incroyable, on s'est régalé toute l'année. Sans que l'équipe soit flamboyante, comme l'a dit Renaud à l'instant, on a été un peu chirurgicaux toute l'année, quoi. Le scénario de ce soir, il résume vraiment la saison qu'on a eue cette année.
La moitié des victoires par un but d'écart, comme on disait.
Comment tu dis ?
La moitié des victoires par un but d'écart.
C'est ça. C'est-à-dire que, on a été pragmatique toute la saison, une défense hyper solide.
Un buteur en feu ?
Et puis un buteur en feu, mais un deuxième, si on parle de Nian, qui a marqué plus de 10 buts aussi cette année. C'est vrai que c'était quand même une attaque précieuse, des défenseurs solides et puis un milieu de terrain avec des
Renault. Boy, c'était quand même pas mal derrière, hein, par rapport à la Ligue 2.
Boy et Sunzu, c'est costaud, franchement. Même pour la Ligue 1, je pense qu'ils auront de quoi faire l'année prochaine. Avec,
ouais, je pense. La charnière, c'est pas ce qui m'inquiète pour la montée.
Comment?
Par rapport à la saison prochaine en Ligue 1, la charnière, c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt devant, le manque de créativité au milieu de terrain. Je pense que plusieurs fois, on l'a senti sur cette saison-là, où ça passait quand même ric-rac sur les matchs et où ça tenait beaucoup sur on met le premier but et on arrive à être sérieux et en mettant beaucoup d'envie derrière. Mais attention aussi au syndrome qu'on a pu voir chez Umut Bozok cette année, qui avait fait une saison en feu en Ligue 2 l'année dernière et qui n'est pas un pied dans l'autre cette année.
Clairement, c'est Diallo, au même titre qu'un Charbonnier, c'est des attaquants, ou qu'un Duhamel à l'époque, c'est des attaquants qui sont capables de performer en Ligue 2, et qui sont pas forcément, des joueurs type Ligue 1. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faudra renforcer à ces postes-là. Si je peux me permettre un dernier propos, je sais pas si, parce que je sais que c'est la fin de l'émission.
Ouais, vas-y, vite fait.
Je voudrais remercier aussi quand même le Vincent Ognon pour son super taf.
Bien évidemment.
Et son humilité aussi, et puis une grosse pensée pour Antonetti, qui a vécu des moments vraiment pas faciles cette année, mais comme l'a dit Renaud, c'est peut-être ça qui a soudé aussi l'équipe.
C'est dit. Merci Laurent d'avoir été.
Pour tout un Jérémy et Cyril, voilà. Et merci beaucoup.
Merci, salut. Bonne soirée Laurent, à bientôt.
Salut Laurent.
Une bonne soirée les gars.
Merci. Allez, Laurent. Merci. À l'année prochaine en Ligue 1.
À l'année prochaine.
Merci Laurent.
Merci, bonne soirée les gars.
Ciao. Tiens les gars, quelques petites infos également. Tiens, le Paulo Sousa qui a déclaré en conf de presse, alors ça confirme ce que disait tout à l'heure Nicolas Paolorsi, sur le carton rouge de Jovanovic, il a dit les joueurs doivent être plus respectueux et faire preuve de plus de maturité. Voilà ce qu'a déclaré Paulo Sousa. Petite info, tiens, justement, on parlait tout à l'heure de la petite dédicace de Galtier à Jacques-Henri Hérault et son idée là de mettre que les buts à l'extérieur de la surface comptent double.
Il lui a pas répondu quand même.
Non, mais Rudy Garcia est en conférence de presse aujourd'hui. Son nom fait écho à Milan notamment. Voilà, il y a une rumeur en Italie comme quoi il pourrait être le prochain entraîneur de l'AC Milan. Alors il a été demandé au coach marseillais en conf de presse aujourd'hui, lui ancien de la Roma, si l'Italie lui manquait.
L'Italie me manque pas parce que à la maison je mange des bonnes pâtes, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non mais c'est mon cas personnel n'est pas important. Moi je vous rappelle que je suis le coach de l'Olympique de Marseille, qu'il me reste 5 matchs pour finir cette saison et mener l'Olympique de Marseille au mieux possible du classement. Et c'est vraiment ce pourquoi je me bats tous les jours et je donne toute ma sueur et mon énergie. Franchement, le reste importe peu. Je suis bien là et je ne pense qu'à gagner le prochain match contre Nantes. Le reste, franchement, j'ai pas de temps à perdre avec ça.
Voilà, du coup, Jonathan Macardy est rassuré.
Rassuré pourquoi? Peut-être que ça accompagne Romaine un petit peu
le mal du pays.
Ouais, ça serait bien, non?
Ouais.
Je pense que ça serait bien. Pour le couple, pour sa vie de couple qui retourne en Italie, c'est bien, ça serait bien.
Ça t'inspire rien, mon Ludo?
Ça m'inspire rien, c'est une rumeur parmi tant d'autres. Il a certes, il jouit d'une belle cote de popularité en Italie, quoique sur la deuxième saison, ça va être un peu plus contrasté, mais il a quand même, faut lui rendre ça, faut rendre à...
C'est Victor de Boudin.
À César, ce qu'il a César, il a fait quand même, il a quand même fait, il a quand même fait une première saison avec la Roma qui était de grande qualité. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse qu'on pense à lui du côté de l'Italie.
Pour lui et pour l'homme, ça serait bien.
Tiens, autre rumeur, celle qui concerne un éventuel rachat de l'OGC Nice.
Mais c'est pas parce que tu réussis pas dans un club que tu es forcément un mauvais entraîneur. On peut se le dire, ça aussi. C'est-à-dire que, il y a des clubs.
J'ai envie de te répondre, mais j'ai pas envie de saccager les trucs.
je vous donne juste l'info. Voilà, Nice qui a démenti une éventuelle vente à Jim Ratcliffe, le milliardaire qui vient de racheter l'équipe cycliste de la Sky. Voilà, ils ont dit, nous n'avons pas l'intention de vendre l'OGC Nice. Et ils déclarent qu'ils veulent s'engager dans le long terme. Voilà, les propriétaires actuels niçois. Autre petite info également, vous l'avez peut-être suivi. Il y en a un qui a prolongé du côté de Montpellier.
Hilton. 41 ans, le Brésilien. Incroyable.
Quelle santé.
Et il a prolongé pour un an de plus. C'est hallucinant, ce qu'il nous fait le défenseur brésilien.
Mais en plus, il est encore bon, c'est ça.
Mais c'est ça qui
est dingue.
Ouais.
Mec, chapeau à lui. Voilà. Bah, ça, on parlait d'hygiène de vie. Lui, je pense que l'hygiène de vie, elle doit être millimétrée.
Tiens, selon le quotidien flamand, alors, Het Laatste Nieuws, voilà, je sais pas comment on dit. Thierry Henry aurait postulé pour le poste d'entraîneur à Anderlecht. Voilà, et le club belge qui a limogé Fred Rutten il y a une dizaine de jours. Ils sont cinquième des playoffs, hein, seulement Anderlecht. Et donc, Henry pourrait peut-être retourner en.
Il y a une nouvelle direction depuis quelques mois. Il y a des gros moyens. C'est un grand club belge, qui pourrait retrouver, rapidement, la scène européenne. Donc, pourquoi
c'est
pas.
C'est eux les mauves.
Oui, c'est eux les mauvais.
Ça, c'est le club des Rigueretz, alors. C'est l'ancien club des Rigueretz.
Oui, je me semble, ouais.
Mais c'est un grand club.
Ouais, bah oui.
Ah, oui, c'est un grand club, oui.
La preuve, il y avait Rigueretz.
Bon, je check quand même si c'est bien celui-là, lui. Parce que toi, tu balances des trucs, mais
non, mais si c'est ça.
Mais au fait, ils font rien, lui, ils balancent des trucs.
Mais si c'est ça, parce qu'à l'époque où il y avait Rigueretz, il y avait un supporter des mauves qui s'appelait Joao, qui faisait des vidéos sur
le standard de Liège. Tiens, là, t'es là.
Mais non.
Si, si. Il a fait le standard de Liège, il a fait Milan, en tant que joueur ou entraîneur?
En tant que joueur.
Bah ouais, il a fait le standard de Liège.
Ah ouais?
Ouais,
il a pas entraîné Anderlecht.
Il a entraîné, Liège, le Royal de Liège, hein, Lierse et Bruges.
Jonathan, bosse tes émissions un peu.
Tiens, t'es là, hein.
Ah bah ok, non. Bah j'ai
fait les mecs que t'aimes, les mecs que t'aimes, vraiment tu les connais bien.
Non, les grosses saucisses. Écoute, ça va la Belgique. Moi ce que je sais, je peux, hein, c'est bon.
Pas heureux que je t'attaque pas, d'avoir balancé des photos de ma vie privée sur les réseaux sociaux.
Bah attends, et tu as vu Ludo sur ma Harley, il est magnifique.
Attends, t'as une tête là-dessus, mon pote. On dirait un Playmobil. Allez, merci Jérôme Thomas, merci Daniel Torres.
Playmobil.
Ah oui,
d'accord. Playmobil.
Merci Jonathan Macardy, merci Ludo Brignac, merci à toutes et à tous. Bisous, bonne soirée, à demain. 21h pour la finale de la Coupe de France entre Rennes et PSG.
RMC, l'After Foot.